Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Tribunal français conteste l'interdiction imposée à Israël de participer à une exposition d'armes. BP2MI demande une augmentation du quota d'admission PMI au Japon. BNPT renforce le système de sécurité à l'aéroport de Sepinggan pour accueillir le jour de l'indépendance de la République d'Indonésie à IKN. Études du WCR indiquent que le classement de la compétitivité de l'Indonésie est passé au 27e rang mondial. Pour la première fois dans l'histoire, un avion de combat F-22 Raptor atterrira en Indonésie. PSSI soutient l'équipe nationale de football des rues pour réaliser des exploits lors du HWC 2024. Et l'Indonésie obtient 221 000 quotas pour le Hajj l'année prochaine. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles complètes. Un tribunal français a ordonné mardi 18 juin aux organisateurs d'expositions de défense de suspendre l'interdiction imposée aux entreprises israéliennes. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un avocat de chambre de commerce franco-israélienne. Le tribunal de commerce de Paris a jugé discriminatoire la décision de Congé Even d'interdire l'accès à Eurosatory à 74 exposants israéliens. Congé Even a déclaré le mois dernier que l'interdiction avait été ordonnée par le gouvernement français. Aucune explication n'a été donnée. Le Salon de la Défense s'est tenu du 17 au 21 juin au Parc des Expositions à proximité du principal aéroport international de Paris. Le chef de l'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants BP2MI, Benny Ramdhani, a demandé que le quota d'acceptation du PMI aux travailleurs migrants indonésiens au Japon soit augmenté. On sait que le Japon a ouvert un quota allant jusqu'à 350 de travailleurs migrants indonésiens par an. Benny Ramdhani, dans sa déclaration de mardi 18 juin, a également demandé que son poste dans le secteur soit également augmenté. Les enregistrements de travailleurs migrants indonésiens au Japon augmentent également chaque année, tout comme en Corée. L'augmentation était de près de 5%, même la Corée était stable avec 7 000 habitants. Cependant, en 2022, ce nombre passera à 14 000 personnes et en 2023 à 15 000 personnes. Bini espère que 2024, les travailleurs migrants indonésiens intéressés à travailler au Japon continueront d'augmenter. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, renforce le système de sécurité à l'aéroport Sultan Haji Muhammad Sulaiman, SAMS, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Oriental, par le biais de sensibilisation et d'évaluation afin d'accueillir le 79e anniversaire de la République d'Indonésie dans la capitale d'État Nusantara, IKN, en août prochain. Chef de la sous-direction de la sécurité des objets vitaux et des transports du BNPT, le colonel Sepel Sigit Karyadi espère que l'assistance du BNPT pourra améliorer et renforcer le système de sécurité, notamment dans la prévention des actes criminels de terrorisme à l'aéroport SAMS Sepinggan. En effet, l'aéroport SAMS Sepinggan est l'un des accès aéroportuaires à IKN. C'est la déclaration écrite du BNPT citée par Antara mardi 18 juin. L'évaluation réalisée par BNPT comprend la sécurisation du premier extérieur au bâtiment VVIP, des terminaux d'arrivée et de départ, ainsi que la réception des marchandises nationales et internationales. Des évaluations ont également été réalisées sur le personnel et les documents, l'intégralité des équipements de sécurité et de sûreté, ainsi que les voies d'évacuation. L'étude IMD World Competitiveness Ranking WCR 2024 indique que le classement de compétitivité de l'Indonésie est passé au 27e rang mondial. La position de l'Indonésie dans le classement cette année a considérablement augmenté pour atteindre cette place par rapport à sa position précédente, à savoir la 34e place mondiale en 2023 pour la région de l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie se classe parmi les trois premières après Singapour et la Thaïlande. Pendant ce temps, la compétitivité à Singapour a réussi à se classer au premier rang. Arturo Brice, directeur du Centre mondial de compétitivité de l'IMDWCC à Jakarta mardi 18 juin, cité par Antara, a déclaré qu'au jour des dernières décennies, des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et la Turquie ont connu une croissance et un développement rapide. En conséquence, ils jouent désormais un rôle important dans le commerce, l'investissement, l'innovation et la géopolitique sur la base du rapport WCR 2024. Certains des pays les plus compétitifs de la région de l'Asie du Sud-Est comprennent Singapour, classé premier, la Thaïlande 25e, l'Indonésie 27e, la Malaisie 34e et les Philippines 52e. L'Indonésie recevra le chasseur furtif F-22 Raptor du F-22 Raptor de US Air Force ou de US Pacific Air Forces. Il est prévu que 6 avions de combat F-22 Raptor du 27e escadron de chasse transiteront par l'Indonésie après avoir participé à l'exercice militaire multinational Pitch Black 24 en Australie en août 2024. Cette visite marque un moment historique car pour la première fois, un F-22 avion Raptor attireront et transiteront en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le chef du service d'information de l'armée de l'air indonésienne, le vice-maréchal Ardi Shahri, dans une déclaration écrite mardi 18 juin. Le F-22 Raptor devrait effectuer un ravitaillement à chaud à Bali avant de poursuivre son voyage vers Brunei Darussalam. Le F-20 de Raptor est appelé avion furtif en raison de sa capacité à éviter la détection, qu'elle soit visuelle, audio de capteur ou d'ondes radar ennemies. La Fédération indonésienne de football, PSSI, soutient pleinement l'équipe nationale indonésienne de football de rue, sans abri, pour remporter le succès lors de la Coupe du monde des sans-abri HWC 2024 en septembre prochain. Le président général du PSSI, Eric Toyir, via son compte Instagram personnel, @EricToyir, après avoir rencontré les joueurs de l'équipe nationale indonésienne de football de rue mardi 18 juin, a déclaré que l'équipe nationale indonésienne de football des sans-abri s'est battue pour l'Indonésie sans stigmatisation ni discrimination à travers des réalisations de niveau mondial. Il a expliqué que l'équipe nationale indonésienne de football de rue avait réalisé un brillant exploit en remportant le prix Lesson Park lors de la Coupe du monde des sans-abri à Sacramento aux États-Unis en 2023. Eric espère qu'au HWC 2024, l'équipe nationale indonésienne réalisera à nouveau des réalisations qui rendront l'Indonésie encore plus célèbre sur la scène mondiale. Il a encouragé l'équipe nationale de football de rue à continuer à se développer pour devenir une équipe nationale forte et à être de plus en plus respectée par les autres pays. Le ministre de la Religion de la République d'Indonésie, Yakut Khalil Koumas, a déclaré mercredi que l'Indonésie avait un quota de 221 000 personnes pour l'opération du Hajj en 1446 Hijriya 2025 après Jésus-Christ, citant un rapport de l'agence de presse Antara. Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra, lors de la cérémonie de clôture du pèlerinage du Hajj de 1445 Hijri à la Mecque, a annoncé le quota de pèlerins pour l'Indonésie. Le ministre Yakut a exprimé son appréciation pour les mesures prises par le ministère saoudien du Hajj pour annoncer le quota plus tôt, afin d'également se dérouler plus rapidement. Le ministre de la Religion a évalué que la mise en œuvre du pèlerinage du Hajj de 1445 Hijriya 2024 après Jésus-Christ a été réussie, avec un certain nombre d'indicateurs, à commencer par le service de la congrégation pendant la phase d'arrivée qui s'est déroulée sans problème. Le processus de service de la congrégation pendant la phase d'arrivée qui s'est également déroulé en douceur, au service de restauration qui pourrait continuer à être assuré jusqu'à la veille du pic du Hajj. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Classement et efforts pour accroître la compétitivité de l'Indonésie » avec moi Audrey. Chers auditeurs, il y a de bonnes nouvelles pour l'Indonésie concernant son classement en matière de compétitivité dans le monde. D'après les recherches de l'Institut pour Management Development World Competitiveness Ranking, IMDWCR 2024, le classement de compétitivité de l'Indonésie est passé au 27e rang mondial, soit une hausse de 7 places par rapport à l'année dernière. Même si elle est toujours en dessous de Singapour et de la Thaïlande, le classement de l'Indonésie est au-dessus de plusieurs pays comme le Royaume-Uni qui occupe la 28e position, la Malaisie la 34e position ou le Japon la 38e place. Cette année, l'étude IMD, World Competitiveness Ranking, a été menée sur 67 des pays. Citant Antara, le directeur du Centre de compétitivité mondiale de l'IMDC-WCC, Arturo Breeze, à Jakarta, a déclaré mardi 18 juin que la compétitivité de l'Indonésie avait été renforcée par l'amélioration des performances économiques, la capacité à attirer des capitaux et la croissance du PIB au produit intérieur brut. Le COE utilise 4 indicateurs pour déterminer le classement mondial de compétitivité WCR 2024, à savoir la performance économique, l'efficacité du gouvernement, l'efficacité des entreprises et les infrastructures parmi ces 4 indicateurs. Le classement de la compétitivité de l'Indonésie est renforcé par les niveaux élevés d'efficacité des entreprises 14, d'efficacité du gouvernement 23 et de performance économique 24. Cependant, l'Indonésie est toujours considérée comme faible en termes de disponibilité des infrastructures, notamment en matière d'infrastructures sanitaires et environnementales 61, d'éducation 57, de sciences 45 et de technologie 32. L'Indonésie continuera certainement à améliorer ses performances concurrentielles, les bons résultats en matière de performance économique, l'efficacité du gouvernement et l'efficacité des entreprises continuent d'être améliorées. En termes d'efficacité gouvernementale, par exemple, les efforts déployés par le gouvernement indonésien visent à lancer le portail intégré INA Digital en mai 2024. INA Digital joue le rôle d'accélérateur pour la transformation des services numériques gouvernementaux, créant une meilleure qualité, plus de services publics fiables et efficaces. Un autre potentiel à optimiser est de profiter du bonus démographique en 2020-2030. Au cours de cette période, on estime que la population indonésienne en âge de travailler atteindra 70%. Dans le même temps, les aspects qui doivent encore être encouragés, tels que la disponibilité des infrastructures, devraient bien entendu continuer à se développer. Le développement des infrastructures est la priorité du gouvernement Joko Widodo pour 2019-2024. Le budget prévu est de 422 000 milliards de roupies pour 2023-2024. On espère qu'il fournira des résultats optimaux. Les efforts visant à accroître la compétitivité doivent bien entendu également être partagés par toutes les parties impliquées dans le développement de l'Indonésie, à savoir les parties prenantes, les gouvernements locaux et le monde des affaires. Le peuple indonésien a également grandement contribué en améliorant sa qualité pour participer au développement de l'Indonésie. Bonjour, je vais tarcer tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 juin 1944, la bataille de la mer des Philippines commence. Le 19 juin 1944, une bataille a lieu dans la mer des Philippines entre la marine américaine et la marine japonaise. La bataille dans la mer des Philippines est devenue une histoire importante de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette bataille, la marine japonaise a perdu 3 porte-avions et environ 600 avions en seulement 2 jours. Après cette bataille, la marine japonaise fut presque entièrement détruite. Cette victoire des États-Unis a ouvert la porte à une attaque contre Iwo Jima. L'autre information est sur l'événement du 19 juin 1961, indépendance du Koweït. Dans les années 1800, le Koweït est devenu une partie de l'Empire turc ottoman. Pour échapper à la domination ottomane, Cheikh Moubarak, qui régnait au Koweït, a signé un traité avec les Britanniques en 1899, établissant l'État du Koweït en tant qu'État indépendant sous protection britannique. Le 19 juin 1961, le Koweït devient indépendant avec la fin du protectorat britannique et le Cheikh Abdullah Al-Salim Al-Sabah devient chef de l'État. Cependant, la fête nationale du Koweït est célébrée le 25 février, qui est l'anniversaire du couronnement de Cheikh Abdullah. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 juin 2015. L'ONU a inauguré la journée pour l'élimination de la violence sexuelle. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 19 juin 2015 la résolution du Conseil de sécurité numéro 1820 de 2008 qui condamnait la violence sexuelle comme tactique de guerre. Le 19 juin est alors devenu la date de commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits. Cette commémoration vise non seulement à sensibiliser à la violence sexuelle, mais aussi à honorer les survivants de la violence sexuelle et à rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie et ont perdu la vie dans le monde entier en combattant ce crime. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua I'm
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, la première phase de développement d'IKN atteint 84,9%. Le gouvernement accélère la première phase de développement des infrastructures de la capitale de Nusantara, IKN. À ce jour, début juin 2024, la première phase d'avancement de la construction atteint 84,9%. Cela a été transmis par le chef du groupe de travail sur la mise en œuvre du développement des infrastructures de l'IKN, Danis As Sumadilaga, vendredi 14 juin. Comme cité sur la page contan.co.id, Danis a déclaré que certains des travaux détaillés par le président du groupe de travail de mise en œuvre du développement des infrastructures d'IKN comprenaient la construction du palais d'État et des terrains de cérémonie, 71,829%, du bureau du président, 89,895%, le bureau du secrétariat présidentiel, 89,017%, bureau du ministère de coordination ANG, 70,330%, bureau du ministère de coordination 2, 31,534%, bureau du ministère de coordination 3, 77,376%, bureau du ministère de coordination 4, 76,446%. En outre, l'avancement de la construction de la maison de chantier du bureau du ministre atteint 91,701% et l'avancement moyen de la construction de 47 tours résidentielles pour les fonctionnaires de l'État et du ministère de la Défense et de la Sécurité atteint 50%. Danis a ajouté que le tunnel multi-utilitaire ou MUT dans la zone centrale du gouvernement central KIPP d'IKN intégrera tous les services publics tels que la conduite d'eau potable, les conduites de gaz, les câbles électriques, les fibres optiques et les conduites d'incendie. Le processus de construction du tunnel multi-utilitaire et d'installation des réseaux de services publics est en cours. Selon lui, début août 2024, l'objectif de progrès pour la première étape est de 80,26%. Pendant ce temps, la directrice générale de Cipta Karya au ministère des Travaux publics et du Logement public, Diana Kusumastuti, a déclaré que le système d'approvisionnement en eau potable de SEPAKU ou SPAM était en cours de construction. Les progrès du système d'approvisionnement en eau potable de SEPAKU ont atteint 85% et devraient être achevés en juillet 2024. Celui-ci sera utilisé pour répondre aux besoins en eau potable d'IKN. Citant indonesia.go.id, 18 juin, le ministre des Travaux publics et du Logement public, qui est également chef par intérim de l'autorité IKN, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré que les préparatifs pour la fête d'indépendance indonésienne dans la capitale Nusantara étaient complètement prêts. Basuki a également déclaré qu'en août, les 12 tours d'appartement ASN dans la capitale Nusantara seront également entièrement meublés. Elle est donc prête à être occupée par les participants à la cérémonie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang
kita sudahi.
Sudahi saja.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, le village de Melo est l'un des villages traditionnels désignés comme village touristique par le gouvernement régional de Nusa Tenggara Est depuis 1993. Le village de Melo est riche en art, culture et beauté naturelle. Ses habitants sont amicaux envers tous les touristes qui visitent. Ici, les touristes peuvent observer directement la vie de la communauté locale, en particulier les activités agricoles, et assister à la création d'objets artisanaux tels que des songkets et des paniers tissés. Le village de Melo est situé non loin de la Labuan Bajo, à une altitude d'environ 624 mètres au-dessous du niveau de la mer. Vous pouvez profiter de la vue sur l'île de Flores dans le village de Melo. Pour visiter ce village, vous pouvez passer par Transflores avec environ 30 minutes en véhicule automobile depuis le centre-ville de Labuan Bajo. Le village prépare une cérémonie d'accueil pour le visiteur en groupe. Chers auditeurs, à votre arrivée sur place, vous serez acquis par la danse Chachi. La danse traditionnelle de Marae est interprétée par des hommes du village de Melo, vêtus de costumes traditionnels. Le village étant situé dans les hauteurs, l'air est frais le jour et froid la nuit. Cela rend le village de Melo idéal pour des vacances dans l'est de Nusa Tenggara, après avoir visité les plages et les îles de la région de Labuan Bajo. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintuku kunci. Jangan menunggu depan.
pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Luka aku bukanlah kujimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa signifie à Karimun Jawa. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Telinga saya berdengung. Je répète, Telinga saya berdengung signifie mes oreilles bourdonnent. Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Telinga saya berdengung. Telinga saya berdengung signifie mes oreilles bourdonnent. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Telinga saya. Telinga saya signifie mes oreilles. Berdengung. Berdengung signifie bourdonne. Sejak. Sejak signifie depuis. Di dalam. Di dalam signifie dans. Pesawat. Pesawat signifie l'avion. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Mes oreilles bourdonnent depuis que je suis dans l'avion. Akhirnya. Akhirnya signifie enfin. Sampai juga. Sampai juga signifie arrivé. Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa signifie à Karimun Jawa. Maaf. Maaf signifie désolé. Tidak bisa. Tidak bisa signifie je ne peux pas. Mendengar. Mendengar signifie entendre. Dengan baik. Dengan baik signifie bien. Dans la conversation, vous entendez la phrase « Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. » Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Signifie « Mes oreilles bourdonnent depuis que je suis dans l'avion. » Dans cette phrase, il y a l'expression « Telinga saya berdengung. » Je répète, « Telinga saya berdengung, signifie mes oreilles bourdonnent. Le mot berdengung, berdengung, en français bourdonne, c'est-à-dire faire un bourdonnement, explique l'état de l'oreille qui revient à entendre un bourdonnement. Dans le contexte, Chris a informé Ayu de l'état de ses oreilles qui ne parvenaient pas à bien entendre car elles bourdonnaient. Écoutez un autre exemple d'expression pour informer de la présence d'un trouble dans un membre du corps. Beurre de barre. Beurre de barre signifie cœur batté. Jantung saya berdebar karena kaget. Jantung saya berdebar karena kaget signifie mon cœur battait à tout rompre à cause du choc. Menggigil. Menggigil signifie frissonner. Badan saya menggigil karena udaranya dingin. Badan saya menggigil karena udaranya dingin. Signifie mon corps frissonne parce que l'air est froid. Dans la province de Java Central se trouve le parc national de Karimun Jawa. La réserve naturelle comprend des îles et des plans d'eau. En 2020, l'UNESCO a désigné Karimun Jawa comme réserve mondiale de biosphère. Karimun Jawa possède un écosystème unique sous la forme d'une combinaison d'îles, de plaines, de montagnes et d'eau. Il y a des forêts de mangroves, de plages de sable blanc et des habitants sous-marins qui volent à visiter. Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.radioreplique.org.
www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, avec moi Audrey, nous vous présentons une chanson du centre de Sulawesi intitulé Topé Gugu. Chaque jour, la chanson Topé Gugu raconte la bravoure des héros et des guerrières de Palu, dans le centre de Sulawesi. La chanson Topé Gugu est souvent jouée lors de divers événements dans le centre de Sulawesi. La chanson Topé Gugu a également été interprété à plusieurs reprises à l'étranger, comme au festival Tonton 2017 aux Pays-Bas et au festival du film Asiatica 2018 à Rome, en Italie. Bonjour Gétar, voici la chanson du centre de Sulawesi intitulée Topé Gugu, chantée par Hajar Blay Big Band et Zaro Ananta. Bonne écoute. Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.